trouver.
D'accord, et restons zen.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Je vous emmerde, je rentre à ma maison.
Tu me prends le cœur.
Ça, c'est un couteau.
Tu peux lui faire bobo.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
That's what she said.
Yippie-ki-yay, pauvre con.
Considère ça comme un divorce.
Rambo, c'est une pédale.
Engagement!
Engagement!
Engagez-vous, qui disait.
Et salut et bienvenue sur le podcast Les Bières Narratives. Je suis Greg du blog The Beer Lantern, le site qui vous parle depuis 2012 de la bière dans toutes ses coutures.
Il y a des coutures à la bière, toi.
Et ouais, je fais des coutures à la bière, monsieur.
Je reprise les ourlets de la bière.
Exactement, la ourlail, c'est moi. À mes côtés, je suis accompagné de Brice, alias Gruntosaur, notre technicien taciturne de l'extrême.
Bonjour.
Qu'on appelle aussi Captain Andy. Et en face de moi, Eric, alias Nounours, des arts narratifs, le site qui vous parle des arts et du narratif.
Ah ouais, à peu près ça.
Et qui publie de les temps en temps.
Les arts ratifs, on va la faire.
Les arts ratifs.
Et c'est la fast fashion.
Qui publie de temps en temps des articles sur les arts narratifs, de temps en temps.
Voilà, de
mais
temps en temps alors.
Mais tu as pas repris depuis, j'ai vu, un petit peu.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà,
voilà c'était très mauvais.
Voilà. Voilà, je comprends.
Voilà, voilà. Et donc, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de deux brasseries. L'une qui est locale et qui s'appelle Les Malfaiteurs. On l'avait déjà évoqué sur plusieurs épisodes précédents. Et la seconde nous vient de Pologne et elle s'appelle Let's Cook de Dear Beer et l'autre va s'appeler Eisenbier des Malfaiteurs. Donc c'est
d'ailleurs, je veux pas dire, mais on devrait quand même rappeler à chaque fois en quoi consiste ce podcast bizarre, quoi.
C'est vrai, pour ceux qui nous écoutent pour la première
ça,
fois.
C'est forcément le premier épisode.
Les pauvres, voilà. Eh bien, ce podcast, le concept de notre podcast est simple. Donc, moi, je suis spécialisé dans la bière depuis une dizaine d'années. Eric est un grand cinéphile avec Brice et comicophile, BDphile, enfin, passionné de tout ce qui se lit, se regarde.
Lui fait la couture, moi, je fais les fils, tu vois.
Exactement. Et je suis un petit peu cinéphile, mais beaucoup moins que mes deux amis. Le concept, c'est moi j'avais le site de Bélantin, Eric avait le site Les Arts Narratifs. On a décidé un jour de s'amuser à fusionner nos deux concepts,
nos passions,
en un. Voilà, nos deux passions en une. Et Brice aimant la bière et les arts narratifs, on a dit bah, viens avec nous, ça on sera trois, c'est cool d'être trois. Viens, on est bien.
Effectivement, on est bien.
Et ouais, je trouve que c'est plus sympa d'être trois, c'est plus dynamique encore que d'être que deux, ce concept que j'aime bien. Et donc, le concept est tout simple, c'est nous prenons en fait une bière ou plusieurs bières qui vont nous évoquer un film, une série, un roman, un auteur ou même un acteur, on a déjà eu ça, hein.
Ouais.
Et on en aura d'ailleurs encore. Et on va vous parler donc de cette bière, on va la déguster pendant le podcast, on va parler de cette brasserie et on va aussi raconter l'histoire de cet art narratif qu'on a choisi, de cette œuvre. Et à côté de ça, on va aussi évoquer un petit sujet brassicole à chaque fois. Et on termine le podcast à chaque fois avec également une série de quiz et de rocos. Et on publie en général une fois par mois, de temps en temps un petit peu plus, quand on est un petit peu...
Quand on est un peu chaud.
On est un peu chaud, voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on a été un petit peu pris. Donc voilà. Et donc, pour revenir à nos deux brasseries, donc de Malfaiteurs et Dear Beer. Donc elles ont, vous avez dû entendre les noms, toutes les deux, quelque chose en commun. Elles représentent un personnage plutôt connu de tous les sériephiles actuels ou les fans de Malcolm. Mais de qui cela pourrait-il s'agir, mon cher Eric ?
Alors, quand j'ai vu marqué sur la bière Let's Cook, j'ai quand même pensé en premier, mais vraiment en premier, à la cuisine des mousquetaires.
Oh, viens ici, ma chérie.
Ouais, bah, il fait bien l'accent de Maïté. Et on a tous ce traumatisme de voir Maïté dans tous les bêtisiers fracasser cette languille à coups
c'est
de masse.
Terrible. La pauvre anguille.
Sinon, j'ai pensé aussi à James Cook. Alors, ne pensez pas forcément à l'agence de voyage. Hein. c'est un explorateur britannique et le premier Européen à débarquer sur la côte est de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie, à Hawaï, et le premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique et à cartographier Terre-Neuve et la Nouvelle-Zélande. Ouais, rien que ça, ouais.
Ah ouais.
Je sais, j'ai un peu traumatisé, il était une fois les explorateurs.
Moi, perso, je connais une agence de voyage près de la Canebière, pour ceux qui nous écoutent, on est marseillais, hein, qui s'appelle Touristra, qui est un très très joli nom, très évocateur. Je suppose qu'elle n'est spécialisée que dans des voyages où l'eau est dégueulasse.
Voilà.
Voilà.
J'ai pensé aussi à Werner Heisenberg. C'est un prix Nobel de physique allemand, fondateur de la mécanique quantique, et que l'on a pu apercevoir dans Oppenheimer de Christopher Nolan sous les traits de Matthias Schweighöfer.
Ah ouais, d'accord.
Mais voilà. Bon, en vrai, au menu ce soir, ça sera Breaking Bad, on est d'accord. Hein.
Effectivement, Breaking Bad. Pendant que.
Donc, pas très loin d'Heisenberg, quand même, quelque part.
Totalement.
Et pendant qu'on fait cette présentation, on est en train de déguster une bière que nous a ramenée Brice, il me semble, c'est toi, ça.
Oui, je te l'avais pris à Lyon, exact.
Tu m'avais pris à Lyon, donc de la brasserie, alors je reprends l'étiquette en même temps que je vous parle. Brasserie Demi-Lune, située à Tassin, la Demi-Lune, dans le 69. Bière
c'est
qui est fabriquée avec du
Lyon. Hein.
Oui, c'est comme plan de cuc chez nous.
D'accord,
si
ok.
Ben en parlant de la Demi-Lune. Voilà. Nous, on a le cuc, eux, ils ont la Demi-Lune. Voilà.
Ben en parlant de cuc, elle s'appelle... Quand on en a plein le cucu, on boit la praline. Voilà, c'est une bière au sirop
de
praline.
C'est poétique.
Voilà, qui est plutôt fun.
Plutôt douce, ouais.
Très, très sympa, on sent bien la praline. Un petit peu alcooleuse, je trouve, par exemple, je trouve un peu forte en alcool.
Ben, je regardais ça tout à l'heure, elle fait que 6 degrés, mais c'est vrai que c'est goûtu.
Elle a du corps, elle est un petit peu licoreuse, ouais. Mais elle est très sympa, très sympa. Donc, bah écoutez, je vais vous parler de nos deux brasseries pour commencer, avant qu'on attaque sur l'homme qui tape à la porte. Exactement. Eh, bruitage.
Action.
Prends-toi soin, mec de la bière de la police académie, pardon. Comment il s'appelait Wilson. Non. Le mec qui faisait tous les bruits là comme ça.
Je ne me souviens plus.
Son nom m'échappe, mais j'aimais beaucoup. Donc,
on va le rattraper.
On va rattraper ça. Vous allez trouver ça pendant que je parle. On sent la fatigue là.
Totalement.
Je pars en vacances dans 2 jours à Édimbourg et les copains partent une semaine après moi en
République
à Prague. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on est toujours sur Prague et la République tchèque, hein, tous les trois. Si vous avez besoin de bons plans pour aller boire des coups.
Je sors de l'expo, du dernier jour de l'expo Mucha à Aix-en-Provence.
Voilà.
Un artiste tchèque. Hein.
Et que vous retrouvez aussi à Prague en expo d'air.
Voilà. J'ai le nom.
Comment il s'appelle?
Moses Hightower, joué par Booba Smith.
Hightower.
Hightower, c'est le grand costaud qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est l'autre.
Je suis persuadé que c'est lui.
Non, c'est l'autre qui est plus petit qui fait les bruitages. Et oui. Donc, pendant que tu cherches, je vais débuter. On va commencer par la Pologne, par la brasserie Dirmir, donc qui est une brasserie fondée en 2015 par, attention, Grégorz. Donc, c'est une version polonaise de mon prénom, hein, j'ai l'impression. Durtan. Donc voilà, c'est une brasserie située à 3 heures au nord-ouest de Varsovie, dans une ville appelée Torun. Donc, c'est une brasserie qui est une gamme de bières en canette assez variée, avec quasiment à chaque fois des animaux cartoonisés, anthropomorphisés, que j'aime beaucoup. Sur cette étiquette donc de la Let's Cook, on voit un ours avec l'imper jaune, avec le masque de Breaking Bad, évidemment. Moi, j'adore leurs étiquettes qui sont très orientées pop culture, justement. Il y en a qui rappellent Peaky Blinders, par exemple. Voilà. Je vous recommande d'ailleurs en sans alcool la Free Panda, qui est une des meilleures bières sans alcool, qui m'était donnée de déguster. J'avais même fait un article sur elle. Voilà, ce jour, c'est une brasserie. Tu as trouvé le nom?
Never say no to Panda.
Pardon. Ah, ok. c'est une brasserie donc, qui, à ce jour, n'est plus beaucoup distribuée en France, à mon grand étonnement. Les derniers catalogues de distributeurs que je reçois ne l'affichent plus trop, donc voilà. Mais je compte bien les contacter pour essayer d'en avoir à l'occasion, ce serait intéressant. Distributeur qui était le sujet brassicole d'un de nos épisodes précédents, donc pas les Oscars, celui juste d'avant, parce qu'au moment où on vous parle, on a sorti l'épisode des Oscars d'ailleurs. Voilà.
J'ai le nom.
Ah.
Donc c'est le sergent Larvell Jones, joué par Michael Winslow.
Michael Winslow, c'est ça. Je savais qu'il y avait un truc genre Winslow, ça me paraît parler. Je pensais au Winslow de La Vie de Famille.
D'accord.
Carl Winslow. Pour notre deuxième brasserie, donc là il y a un peu plus de choses à dire, parce qu'on les connaît très bien, c'est les copains des Malfaiteurs, donc brasserie marseillaise fondée par Sylvain et Sylvain en 2018. Donc ça c'est facile, hein. Donc au début, nos deux amis brassaient en fait dans les box de garage de la grand-mère de l'un des deux, dans le 13e arrondissement de Marseille. Donc j'avais été les voir, j'avais fait un article sur eux, une sorte de petit reportage que j'avais fait avec eux. c'était très rudimentaire. Ils avaient percé des murs, des trous entre les murs de chaque box pour faire circuler la bière. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Et puis, comme diraient les Tranxènes, pour ceux qui ont la référence, il y a eu une scission. Et donc, nos deux amis se sont séparés. Donc, l'un est parti chez un distributeur qui, je crois, aujourd'hui n'existe plus, s'appelle Brother Loving Beer. Est devenu commercial pour eux, pour devenir ensuite, je crois qu'il est fromager, il me semble, notre ami Sylvain.
Une reconversion.
Une reconversion, voilà. Et l'autre, Sylvain, est toujours à la brasserie. Donc, Sylvain, lui, vient du milieu du vin. Et donc, il a relocalisé la brasserie donc, du côté du cimetière Saint-Pierre à Marseille. Donc dans une zone assez tranquille, pas très bien desservie en soi, mais plutôt tranquille, où avait eu lieu d'ailleurs le premier Marseille Beer Festival en 2021. Voilà, donc, mais on cite Sylvain, mais bien entendu, il y a toute une nouvelle équipe qui l'a suivi, donc on peut citer Alban, sa compagne, Dan, Arnaud et Julien.
Qui a toujours raison.
Qui a toujours, quoi ?
C'est Alban Thor, non ?
Oh ! Ben non.
Enfin non, merde.
Non, elle a jamais raison du coup, c'est Alban Thor. Donc j'ai Dan, Arnaud et Julien, donc qui font partie de la prod, qui sont également les trois musiciens du groupe, parce que chaque fois qu'on fait des tétos avec eux, ben ils jouent de la musique en acoustique, oui. C'est assez cool, c'est cool très sympa. Voir. Et enfin, citons Chloé, commerciale / harceleuse de la brasserie. Qui était jusqu'à peu binôme avec Zoé, qui est partie depuis à Toulouse. Pourquoi je dis harceleuse, c'est parce que des fois je recevais un tas de messages de Chloé parce que je savais que ça me faisait marrer. Elle me disait vas-y, prends des fûts. D'ailleurs, j'ai pris une fois un fût auprès d'elle qui goûtait le poulet au curry, un truc comme ça. C'était un petit peu comme Iron a fait
un
sa version
au
curry. Ouais, mais c'était une bière au curry. Donc okay. Je crois que c'était le gagnant d'un concours du Marseille Bière qui avait eu du coup l'occasion de pouvoir brasser sa bière chez les malfaiteurs. Et c'était très très cool. Franchement, voilà, c'était très très cool. Donc voilà, j'en profite en même temps qu'on parle de saluer tous les copains des malfaiteurs. Donc c'est une brasserie qui propose une gamme de classiques à se revisiter. Très sympa, donc c'est très abordable pour tous les néophytes. La gamme est en bio. On peut la retrouver dans tout ce qui est un petit peu Biocoop, tout ça à Marseille et ailleurs. Elle est aussi vendue au musée de la Grotte Cosquer.
D'accord.
Ce qui m'a étonné, parce que vu le thème de la Grotte Cosquer, les malfaiteurs, j'aurais plus vu Zoumaï, qui est une brasserie
îles,
voilà, qui est plutôt axée sur le littoral. Mais c'est eux qui ont eu l'occasion de vendre en fait, là-bas, donc c'est plutôt cool. Donc, outre leur série de classiques, l'infiltré, la crapule, etc., ils ont aussi fait donc, une petite série dérivée qui est dédiée aux gangsters. Pardon. Donc, on a la Eisenbier qu'on a ici, la WPA, mais on a aussi la Graptou, la Dilly Ginger, une bière au gingembre. Et depuis peu, ils proposent une petite gamme de canettes avec par exemple une stout à la banane flambée ou encore une petite gosse très sympa. Donc voilà, et nous aujourd'hui, évidemment, on a choisi notre double IPA, la Eisenbier, qui est un nom équivoque quelque peu revisité d'un certain professeur devenu dealer de meth. Mmh. Et je rajouterai avant qu'on débute le plat du jour que Sylvain est théoriquement prévu de faire une petite émission à l'occasion avec nous. Où on parlera cette fois-ci, je pense, sur le thème des gangsters, à mon avis.
Totalement.
Ça sent un peu les affranchis ou des trucs comme ça. Donc, sur ce, Eric, Brice, je vous laisse nous faire découvrir Breaking Bad, que moi, personnellement, je connais très peu, puisque je n'ai vu que deux épisodes.
Il a vu le premier et le dernier, il avait la flemme entre les deux.
Voilà. Non, j'ai vu que les deux premiers épisodes, parce que je n'ai jamais malheureusement pris le temps de la regarder. Mais,
On va te spoiler en fait.
C'est pas grave, mais je sais que j'ai très envie de la voir dans tous les cas. Mais oh non, je me suis spoilé depuis bien longtemps. Donc,
bon, je spoil pas trop quand même. Non, mais...
En général, non, mais je sais que moi, ça me dérangera pas d'être spoilé, ça fait tellement longtemps que.
Bon, alors aujourd'hui, on va parler de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série télé, une série télé américaine créée par Vince Gilligan. Qui n'a rien à voir avec Gilligan Island, hein, c'est pas le même genre du tout, qui suit la transformation d'un professeur de chimie, Walter White, en un dangereux trafiquant de drogue, après avoir été diagnostiqué d'un cancer du poumon en phase terminale. Avec l'aide d'un ancien élève, Jesse Pinkman, il se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine, la meth, une drogue très addictive et lucrative pour assurer l'avenir financier de sa famille avant de mourir. Voilà, le mec, il va mourir. Je vais mourir, ce que je vais faire, je vais faire du blé parce que je veux protéger ma famille. Et quel est le meilleur moyen de faire du blé quand tu es malade ? C'est de faire de la drogue. Oui, ok.
Parce que je verrai toujours vos visages.
Voilà.
J'ai entendu tellement de fois quand j'ai fait le montage des Oscars, des Césars.
Tout au long de la série, Walter va faire face à des conséquence de ses choix, évidemment. Parce que quand on se lance dans la drogue et donc dans le crime, y a les risques du milieu criminel, il y a aussi la traque par les flics, dont notamment un agent de la DEA, ceux qui sont spécialisés dans la drogue, dans les stupéfiants, un agent des stupes.
C'est stupéfiant.
Qui s'appelle Hank Schrader, qui n'est autre que son beau-frère.
Schrader ?
Schrader.
La dimension X. Allez voir notre épisode consacré aux Tortues Ninja, d'ailleurs.
Voilà.
Hop, la petite pub.
Vince Gilligan, en fait, c'est un gars qui était scénariste et producteur et qui s'est notamment fait connaître sur les scénars de X-Files, la série aux frontières du réel, comme on dit en France, multidiffusée sur M6. Et il a d'ailleurs écrit bon nombre de scénarios de la série. Il a aussi écrit un film, je n'aurais pas cru, en fait, faisant les recherches, c'est lui qui a écrit le film Hancock, réalisé par Peter Berg avec Will Smith.
J'avais bien aimé, moi, ce film.
Oui, moi aussi, c'était une revisite du super-héros en mode normal, quoi. Qui était très intéressant, très drôle. Et du coup, il avait eu l'idée de la série en discutant avec son ami Thomas Schnautz, également scénariste sur X-Files, de ce qu'ils pourraient faire pour gagner de l'argent après avoir perdu leur emploi. Ils ont imaginé, du coup, l'histoire de ce professeur de chimie qui se met à fabriquer de la drogue dans un camping-car. Et toute personne qui a vu, ne serait-ce que le premier épisode ou la première affiche de Breaking Bad, comprend qu'ils sont allés au pied de la lettre au niveau de l'utilisation de ce concept.
C'est vrai. Je me souviens encore quand on était aux États-Unis tous les trois, on voyait dans le désert des camping-cars et à chaque fois on se dit « Oh, Breaking Bad ».
Voilà.
Ça nous évoquait ça.
Le marché du camping-car aux États-Unis, je sais pas ce qu'ils donnent maintenant, mais bon. Du coup, Gilligan a ensuite développé le concept et l'a proposé à plusieurs chaînes de télé, dont la chaîne AMC, qui a accepté de produire la série, même si sur la chaîne d'en face Showtime, vous aviez une série qui s'appelait Weeds et qui avait un peu des points communs en termes de thématique.
Mais qui était un peu plus drôle, non, je crois ?
Qui était bien plus drôle et beaucoup moins
violente. Plus comédie. Voilà. Ouais.
Plus comédie, ouais.
Du coup, Gilligan a choisi de situer l'action à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Albuquerque.
Pour des raisons budgétaires, mais aussi pour un contraste avec le paysage désertique et la violence du trafic de drogue, du milieu, comme on dit dans le jargon. Il a également voulu explorer la transformation morale et psychologique d'une personne ordinaire, donc Walter White, qui est un petit professeur... pas forcément un bon professeur en plus.
Ouais, c'est un professeur, un prof de chimie basique. Un
prof de chimie basique qui fait ça parce qu'il ne sait pas trop quoi faire d'autre. Et qui devient progressivement un criminel impitoyable, Heisenberg. Il a décrit la série comme un conte de fées pour adultes.
J'ai pas trop vu le principe de conte de fées d'ailleurs. Mais...
Ouais.
C'est-à-dire qu'il il réussit quand même tout ce qu'il fait.
Ouais.
C'est... Enfin, il part de rien et il monte quand même un beau truc, quoi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, peut-être.
Je sais pas.
Peut-être, ouais.
Au niveau casting, Gilligan a fait appel à Bryan Cranston, qu'il avait déjà dirigé dans un épisode de X-Files. Non, pas le rôle du père de Malcolm, bien évidemment.
Cette série, faut que j'en recommence.
Cranston a accepté le rôle malgré quelques réticences initiales des producteurs qui le connaissaient surtout pour ce rôle comique du père de Malcolm, qui effectivement est en totale
c'est vrai qu'il est extrêmement bon dans le rôle
opposition. Gilligan a ensuite engagé Aaron Paul pour jouer Jesse Pinkman, le partenaire de Walter, qui jouait alors dans la série Big Love, après s'être fait remarquer comme candidat au juste prix. La version US du juste prix.
Avec Philippe Rizzoli.
Yeah, lui-même.
La vidéo traîne sur YouTube. Si vous regardez, le mec, il est habité quand il arrive au juste prix. Vous voyez la version française où ils appellent, enfin, ils font deviner dans le public. Après, il y a le candidat qui descend. Quand il est descendu, il était en mode... Je pense que lui, il avait pris de la drogue à ce moment-là.
Cuitas, les bananas.
Découpées en dos,
les patatos.
Cet instant musical vous est offert par...
Par la suite, il a recruté d'autres acteurs comme Laura Fraser, Dean Norris, Betsy Brandt, R.G. Mitt, mais aussi Bob Odenkirk, connu pour les comédies Larry Sanders Show, où tout le monde aime Remo, Giancarlo Esposito, qui est apparu dans de nombreux films 4 de Spike Lee, dans des épisodes de séries, dont Le Mandalorian.
Et Far Cry.
Et je ne l'ai pas vu.
Il joue dans le jeu vidéo Far Cry, le dernier.
Ok.
Sur un dictateur. Très, très bien.
Bizarrement.
Parfait.
Ouais.
On y trouve aussi Jonathan Banks, une véritable gueule qu'on a pu voir dans de nombreux films. Y a-t-il un pilote dans l'avion, 48 heures, Gremlins, le flic de Beverly Hills, Flipper. Et dans des séries comme Un flic dans la mafia et Community.
Ah, Community. Il avait remplacé, comment il s'appelait
Chevy Chase.
Chevy Chase, ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Et enfin, Hannigan, que nous avions aperçu dans The Practice et la série Deadwood.
Ouais, ouais. Bob Odenkirk qui était à la base celui qui a failli avoir le rôle de Michael Scott dans The Office. Et qui
il apparaît dans The Office d'ailleurs.
Et il apparaît à la fin et à un moment donné, tu vois, c'est Pamela Pam qui va pour trouver du taf. Elle fait un entretien dans cette boîte. On voit Bob Odenkirk du coup qui joue un patron en fait trop chelou. Et elle regarde la caméra et dit « Mon Dieu, mais c'est une autre version de Michael ». Donc c'était le petit clin d'œil assez fun à Bob Odenkirk du coup. C'était assez fun.
Ouais. D'ailleurs, la série a été donc tournée principalement à Albuquerque, avec quelques scènes au Mexique et en Allemagne. Oui, en Allemagne, c'est bizarre, je suis d'accord. Elle a bénéficié d'un budget moyen de 3 millions de dollars par épisode, ce qui n'est pas dégueu quand même. Elle a été diffusée sur AMC du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 en 5 saisons pour un total de 62 épisodes. Ça a connu un succès croissant en critique que public. À la fin, la cinquième saison a été attendue et acclamée comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Breaking Bad est donc considéré comme, par beaucoup de critiques comme l'une des meilleures séries télévisées de tous les temps. Saluée par la critique, le public, pour son scénario, sa réal, sa photo, son interprétation, etc. etc. Ça a été récompensé donc par de nombreux prix, 16 Emmy Awards, 8 Satellite Awards, 2 Golden Globes, 2 Peabody Awards, je ne connaissais pas celui-là, et 3 WGA Awards, les trucs des scénaristes. Quoi. Elle a également acquis un statut culte et a engendré plusieurs produits dérivés, mais aussi des spin-offs. Un spin-off Better Call Saul et un film El Camino, et même une adaptation mexicaine. Qui a duré comme 2 saisons, qui s'appelle Metastasis. Métastase pour quel cancer.
Curieux de voir ce truc, tiens.
Qui raconte les aventures de Walter Blanco et José Miguel Rosas, oh là, Pacific Ben.
Il y a une version copier-collée, je crois, biélorusse de Big Bang Theory qui est extraordinaire à voir aussi. Hein. Donc, est-ce que c'est pas un succès français, un succès croissant, d'après vous?
Ah, voilà. Quelque part, oui, certainement.
Je peux te laisser enchaîner sur cette blague de merde, Brice.
Oui, pardon. C'est une blague, blague chocolatine.
C'est difficile d'enchaîner sur un croissant, mais bon. Bref, donc tu le disais, Breaking Bad se compose de 5 saisons divisées en 2 parties chacune, pour un total donc, de 62 épisodes. Les épisodes font entre 40 minutes et 1 heure. La série a été diffusée sur la chaîne AMC aux États-Unis, au Canada, et ensuite sur Netflix. Je ne sais plus si elle est toujours disponible d'ailleurs sur Netflix.
Oui,
toujours.
Oui.
Le spin-off Better Call Saul est centré donc sur l'avocat Saul Goodman. Donc ça commence de mémoire avant quand on le rencontre dans la série.
Si je me souviens. C'est un préquel et une sequel. C'est-à-dire que très peu de séquences.
Entre les deux, c'est une miguel.
très peu de séquences de toutes les saisons, des 4 premières saisons de Better Call Saul se passent après Breaking Bad. On va dire que c'est des micro-séquences, des cold opening au début, qui montrent en noir et blanc ce qui se passe dans sa vie actuelle. Et tout le reste, c'est ses origines, en fait, avant qu'on le rencontre dans Breaking Bad.
Ok. Du coup, donc centré sur l'avocat Saul Goodman, et ça durera au final 6 saisons, et ce sera même parfois préféré à la série d'origine. Perso, moi, j'ai pas accroché en fait.
Moi, j'ai eu du mal à accrocher à Breaking Bad sur la première saison. Les 2 premiers épisodes m'ont plu, et j'ai été emballé par le dernier épisode de la première saison, et c'est ce qui m'a permis de continuer. La première fois que j'ai regardé Better Call Saul, la première saison, je me suis vulgairement, comme on dit, fait chier. J'ai redonné une chance à partir de quelques mois, années après. Je me suis retapé... Non, pas la saison. Je suis allé directement à la saison 2, en vrai. et en fait, ça commence progressivement à prendre parce que tu t'habitues à tout cet éventail de personnages. Progressivement, tu vois apparaître des personnages que tu verras plus tard dans Breaking Bad. Enfin, que tu avais déjà vu dans Breaking Bad, du coup. Et tu comprends mieux la création de certaines dynamiques qui apparaissaient comme préexistantes dans la série d'origine. Quoi.
Et du coup, enfin, El Camino, le film de 2 heures, épilogue de la série, qui nous montre la fin des aventures de Jesse Pinkman.
Que je n'ai pas vu, celui-là.
Alors moi, je l'ai vu sur Netflix. Non. Voilà. Ouais. Oh, simplement non. Bah, en fait, c'est du réchauffé. En fait, ils ont fait revenir tous les acteurs de la série Breaking Bad, même ceux qui étaient morts, au travers de flashbacks, machin, voilà. Tout ça. Et bah, en fait, il ne se passe rien dans la série.
Ah merde, dans le film.
Dans le film, pardon.
Même Bryan Cranston revient ?
Ouais, tous. Ils sont tous là via des flashbacks. Tous les acteurs reviennent. Tu les revois à un moment donné. Tu revois des scènes de la série, mais de manière plus complète. Il y avait des petites ellipses que tu voyais pas ce qui se passait. Ben là, en fait, tu vois ces ellipses-là.
Ok, ouais, ouais.
Donc ça te permet de revoir les personnages. Mais en fait, il n'y a rien. À part des flashbacks, il n'y a rien.
Ouais.
Là, ça avance pas vraiment. C'est un peu mollasson. Franchement, j'ai pas accroché.
D'accord.
Je bon. Ok. Alors, effectivement, oui, ça permet d'avoir une fin pour le personnage. Tu vois ce qui lui arrive. Mais deux heures pour ça, c'est un peu long, en fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Le point fort de la construction des épisodes de la série, c'est. Donc, de Breaking Bad, c'est principalement d'aller chercher le spectateur là où on ne l'attend pas. Donc l'intro de l'épisode sert à situer l'action et à présenter les personnages. Une petite structure... je suis perdu.
Ça se voit.
Je suis perdu.
Je suis Dora, je suis là pour t'aider.
C'est des questions et des réponses. Regarde.
Brice, tu veux la carte?
Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte.
Tant que vous n'êtes pas la carpe.
Oh oui. La carpe. Donc on a perdu Brice, les amis.
Je suis perdu.
Allez,
je
reprends.
Donc tu as l'intro qui sert à situer l'action ou à présenter les personnages. Donc oh mon dieu, non.
Allez Brice, on va explorer ton conducteur. Pardon.
Je vais prendre le relais là-dessus.
On sent qu'on est fatigué.
C'est ça. Le point fort de la construction des épisodes de la série, que ça soit Breaking Bad ou Better Call Saul, d'ailleurs, c'est principalement d'aller chercher le spectateur là où on ne l'attend pas. Par exemple, une intro d'épisode, normalement, ça sert à situer l'action ou à présenter des personnages. Et bien là, ok, ben si on faisait plutôt une situation absurde et incongrue où personne ne comprend rien, allons-y. Allons-y joyeusement. La structure d'un épisode d'une cinquantaine de minutes est généralement rythmée par 4 actes de durée à peu près similaire qui historiquement étaient faites pour caler des pubs entre chaque acte. Si on changeait la pondération de ces différentes parties de l'épisode, hein, ça serait pas sympa. Bref, les scénaristes et réalisateurs des épisodes de Breaking Bad redoubleront d'imagination pour prendre à contre-pied pas mal d'attentes du spectateur, pourtant habitué à certains clichés. Par exemple, tu vois un gars qui... une tête un peu malfaisante, tu sens qu'il va faire une connerie et il se fait descendre par un truc innocent en face de lui. Tu vois en pré-générique de toute une saison des résidus d'un nounours dans une piscine totalement explosé, des trucs comme ça. Tu as toute la saison qui se passe. Alors je ne vais pas spoiler la fin, comme je l'ai dit, cette saison-là. Mais l'événement final n'a rien à voir avec tout le reste de la saison, quoi. Tout ce qui a généré ça n'a strictement rien à voir, quoi. Voilà. Donc,
je propose de faire une petite pause d'une minute pour écouter le générique de Breaking Bad, parce que je sais que le générique est plutôt...
Quelle magnifique pause.
Merci.
Très bien. Très belle pause, Eric. Générique.
Created by Vince Gilligan. Donc, où en étais-je ? Ah oui. Donc, la mise en scène des épisodes des deux séries révèle donc des ingéniosités d'un épisode à l'autre avec des plans improbables, notamment grâce à des caméras posées sur des objets du quotidien. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir une travelling, mais parce que la caméra est posée sur un aspirateur, par exemple.
Ah, j'aime bien.
Il y a des fois des constructions malines, ce que je disais tout à l'heure, la structure de l'épisode, la temporalité de l'épisode, le pré-générique qui n'a rien à voir avec le reste. Enfin bref, on sent que les scénaristes et les réalisateurs s'amusent à perdre un peu le téléspectateur, quoi. Et on remarquera notamment, par exemple, dans ce truc-là, l'épisode intitulé « La mouche », qui a marqué beaucoup de spectateurs de la série, qui est réalisé par un certain Rian Johnson, à qui on doit depuis Looper et Knives Out, à couteau tiré.
J'ai bien aimé ces deux films. Ouais.
C'est pas l'épisode 6 de, 8 de Star Wars aussi, Rian Johnson ?
Oui, tout à fait. Donc, mais c'est pas le plus mauvais.
C'est pas le plus mauvais des trois derniers.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
C'est à minima le plus original.
Oui, voilà.
Et voilà, donc, et cet épisode de la mouche, où tout bêtement, il chasse une mouche. Pendant tout un épisode.
Oui, littéralement.
Et on voit des scènes, enfin pas des scènes, des prises de vue du point de vue de la mouche.
Oh, c'est génial. je vais regarder cette série pendant mes vacances, je pense.
Et enfin, si le scénario est plein de rebondissements, on y décèlera quand même aussi une certaine critique sociale des États-Unis. Bah déjà, notamment sur le manque de vraie sécurité sociale, en regard du fameux rêve américain, qui, dans ce cas précis, pousse à faire évoluer la moralité de ses protagonistes, comme le nom de la série indique. Breaking Bad signifie en effet mal tourné. Et ici, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui devient Tony Montana. Ou comme le dirait le créateur de la série, on prend le personnage de Mr. Chips et on va le transformer en Scarface. On va prendre donc un héros et épisode par épisode, on va le transformer en méchant.
C'est vrai.
Et Bryan Cranston est parfait pour ce rôle de victime qui tourne au génie du mal, souvent inquiétant, il laisse transparaître. Quand il réfléchit, tu vois qu'il a toujours 12 coups d'avance. Et à l'inverse, il peut parfois être tellement soudain dans ses réactions et tellement froid dans ses réactions que tu te dis, ah merde, qu'est-ce qui se passe ? C'est totalement bizarre, quoi. Et là, je me rends compte que je parlais de Mr. Chips. En fait, c'est un... C'est un film de 1939, Mr. Chips. Donc, dans ce dont parle Vince Gilligan avec ça, c'est le film de 1939, Goodbye, Mr. Chips. C'est un prof à la retraite qui a 80 ans et qui revoit toute sa carrière, genre quand il arrive en début de carrière, où il est un peu moqué, jusqu'au moment où il devient un prof respecté, aimé par ses élèves. Et quand il parle de Scarface, il parle du film avec Tony Montana, évidemment, l'ascension d'un baron de la drogue. Quoi.
Le fameux où tous les dealers, toutes les petites racailles sont fans, et tu as envie de leur dire, mais vous avez vu la fin, vraiment, parce que c'est pas génial, ça donne pas
envie. Il arrive pas vraiment des bonnes choses à la fin.
Il finit pas marié et milliardaire, le mec. Quoi.
Non, pas vraiment.
Je précise que, du coup, tu disais, on t'entendait un petit peu chercher tes mots, c'est parce qu'en fait, Eric pour notre épisode, a potassé des bouquins, parce que pour dire on avait aussi pas mal de bouquins qui existaient. Et tu as trois livres, du coup, là
Ouais, j'ai trois. Alors, j'en ai deux en français et un en anglais. Celui en anglais, c'est The Revolution Was Televised.
Avec Mad Men dessus. Ah oui, d'accord.
C'est à peu près toute la révolution des années 2000-2015, on va dire, cette période-là, où la série feuilletonnante et les personnages un peu originaux et à contre-emploi sont revenus à la mode. Là, le sous-titre, c'est comment les Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, Lost et d'autres dramas ont changé la télé pour toujours. Bon, hein, c'est
ouais, ça, non, mais oui.
Vous avez aussi un livre de... je vais en parler dans pas longtemps, d'ailleurs, de Brett Martin, une traduction qui s'appelle Des Hommes Tourmentés, le nouvel âge d'or des séries, des Sopranos et The Wire à Mad Men et Breaking Bad. C'est aux éditions de La Martinière.
Ok.
Et je crois même que j'avais reçu ce bouquin en service presse à l'époque.
Oh, glace.
Voilà. Et enfin, plus spécialisé Breaking Bad, un livre de François Jost, Breaking Bad, Le Diable est dans les détails, qui justement parle plus de la structure des épisodes, structure des scénarios, etc. Alors voilà, je vais pas rentrer dans des détails très très compliqués pour le podcast, mais il a des exemples d'actes dans de certains épisodes, de découpage de la et du minutage de ces choses-là, et ça permet de mettre en rapport avec le fait qu'il que Breaking Bad déconstruit souvent ces structures, tout en les respectant quand même, mais il les tord un peu. Quoi. Donc au final, à quel genre appartient Breaking Bad ? De prime abord, on pourrait le ranger donc, dans la série d'une série de style action. Parce que trafic de drogue, des flics, etc., etc. Mais en réalité, le point fort de la série, au même titre que celui de sa petite sœur Better Call Saul, c'est qu'elle navigue en fait entre plusieurs genres, en singeant, en imitant, ou parfois même en adoptant carrément un tout autre genre. Ça peut être du western, il est vrai que les paysages du Nouveau-Mexique s'y prêtent. Ça peut être de la comédie, la parodie, voire même parfois de la romance. Et si l'on creuse un peu plus loin que les différentes formes adoptées, est-ce qu'au fond ce n'est pas tout simplement la fable sociale dont on parlait tout à l'heure sur les difficultés de la société américaine avec son système de santé défaillant, la prolifération des drogues, de la violence, car en réalité Walter White bascule parce que la société se révèle toxique envers lui au sens propre comme figuré, c'est-à-dire que on le maltraite, il a un cancer et pour s'en sortir, il se met en mode survie et bascule il devient lui-même le cancer de la société. Ouais. Pour des causes qui sont au final relativement nobles, parce que il veut aider sa famille à minima financièrement. Quelque part, malgré ses choix discutables, Walter White rejoint le rang de ces hommes tourmentés dont je vous parlais, le bouquin de Brett Martin, qui l'explique bien mieux que moi. Et que ce soit pour un mafieux comme Tony Soprano dans Les Sopranos, un trafiquant de drogue comme Omar Little dans The Wire, ou encore un flic retors comme dans The Shield, toutes ces séries dépeignent des personnages en prise avec une réalité détestable. Mais pourtant attachant à minima dans leur parcours face à des systèmes officiels ou parallèles, soit injustes, soit très dangereux. Ainsi, Walter White et la série Breaking Bad sont entrés dans ce panthéon d'anti-héros de cette, on va dire, quinzaine d'années entre 1999 et 2014, et qui a su conquérir le cœur du public et dont la forme était mécaniquement assez addictive pour que ça prenne. Quoi.
Je vois. Très très bien, les amis. Je pense qu'on a bien fait le tour. C'est une série que je pense que je vais continuer.
Parce que, Il faut.
Vous m'avez bien donné envie. Bon, après, j'avais déjà envie de la continuer, mais d'autant que la série, du coup, est terminée.
Et tu te laisses porter en plus, franchement. Je l'ai regardé quasiment d'une traite.
Oui, mais en fait, moi, tu sais, j'ai une série. En fait, dès lors que je m'y mets, je vais la regarder.
Et puis, t'as des répliques assez cultes dans
la série. D'ailleurs, en parlant de répliques cultes, ça tombe bien parce que le sujet brassicole, je vais revenir sur un article que j'ai publié il y a quelques semaines, je crois, en tout début d'année. C'était un article que j'avais fait justement sur le fait de travailler dans l'alcool, donc l'addiction, méthamphétamine, drogue et tout ça. Donc c'était l'occasion de faire un petit point sur ça, en parler justement.
Et on flotte bien quand on travaille dans l'alcool, on coule un peu.
Oh,
ça coule à flot même.
Donc le temps d'aller récupérer nos deux bières, je vais vous diffuser un petit extrait justement en parlant de réplique culte.
I'm not in danger, I am the danger.
Alors non, il y en a deux, mais je peux diffuser la première, ça c'est pas un souci justement. Parce que l'extrait n'est pas long, et je vous diffuse aussi en foulée la deuxième réplique culte aussi. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a trois répliques cultes du coup. Je suis le danger, je suis celui qui tape à la porte, et dis mon nom.
Say my name. Mais après, il n'y a pas que Walter White qui a des répliques sympas. Hein.
Ouais.
Par exemple, Saul Goodman, qu'on reverra dans le spin-off. Don't drink and drive, but when you do, call Saul.
Ah, joli. Du coup, je suis le danger de Breaking Bad, là, en premier.
Un professeur qui a un cancer, sa famille dans le besoin.
Ça suffit, arrête.
Obligé de travailler dans l'impossibilité d'arrêter. Tu me l'as dit toi-même, Walter. Seigneur, mais qu'est-ce que je dis ? Walter, je t'en prie. Arrêtons tous les deux d'essayer de justifier toute cette affaire. Et admets-le, tu es en danger.
À qui est-ce que tu parles en ce moment ? Qui est-ce que tu crois que je suis ? Est-ce que tu sais combien je gagne chaque année ? D'ailleurs, même si je te le disais, tu ne me croirais jamais. Tu sais ce qui arriverait si je décidais tout à coup de ne plus travailler ? Un business si important qu'il pourrait être coté en bourse ferme brusquement. Il disparaît. Il cesse totalement d'exister sans moi. Non, t'as pas compris. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi ? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte.
Et ouais, C'est lui qui frappe à la
mic
porte.
Drop.
Mic drop, j'avoue. J'avoue que c'est pas mal. Je vous mets le deuxième extrait, tant qu'à faire, le temps qu'on ouvre nos bières, notre première bière.
Du coup, on commence par laquelle ?
Alors, je dirais qu'on va commencer peut-être par...
La première.
La première.
Exactement.
Et du coup, tu conseillerais que la première soit laquelle ?
Je pense que l'IPA est mieux que la Mango Gauze. La Mango Gauze, rien ne sera le palais après.
Je pense que la Mango Gauze va passer après.
Ok.
Donc, on va passer... J'étais un peu loin du micro. On va ouvrir notre ami Eisenbier des malfaiteurs. Donc c'est le moment de l'ouvrir. Hop, attention. Je vais l'ouvrir un peu en dehors de la table, sait-on jamais. Hop, elle a fait un petit pchit, ça va, tout va bien.
Elle a fait un petit pchit. Avec une grosse voix, c'est toujours dégueulasse. J'étais l'homme qui se jetait à l'oreille.
Ça fait une belle mousse en tout cas.
Oui. Après, je l'ai bien servi. Oups, là, on est bon. Tiens, Eric, c'est pour toi.
Dankeschön.
Donc, la Eisenbier que vous verrez sur nos illustrations. C'est une double IPA qui est titre à 7,5%. Je vous lis le petit synopsis qui a été noté sur l'étiquette. En 1985, les recherches de Walter White l'ont conduit à l'obtention du prix Nobel de chimie. Et ce n'est que dans les années 2000 qu'il se fera connaître du grand public sous le nom d'emprunt Heisenberg, créateur de la mécanique quantique dans les années 1930 que tu avais évoqué tout à l'heure, Eric, en s'associant avec l'un de ses anciens élèves dans le cadre d'activités nettement controversées. Il a largement inspiré la recette de cette Cereal Killers de printemps. Donc voilà, c'est ça que je cherchais, le nom de la série qu'ils ont fait, c'est les Cereal Killers, donc du coup Eisenbier, Grabtou et Dilly Ginger, du nom du gangster très célèbre américain. C'était américain, je crois. Oui. Parce qu'on a un pote qui s'appelle Dillinger aussi, du coup, du même nom. Donc c'est assez fun. Donc on est sur, comme on disait, une belle mousse. Hein, la bière est assez claire de notre côté, parce qu'Eric, toi, tu as eu la fin de l'hiver.
J'ai la levure.
On est sur une couleur ambrée, très sympa. On a une odeur qui est assez cool. La bière a pas mal vieilli, donc ça va. Ça pourrait être pire. On a tellement de bières que...
Elle a passé la DLUO, celle-là aussi.
Je
n'y crois pas.
Je crois pas. Le goût, en tout cas, n'est pas altéré, ça c'est quasi certain. La DDM, elle a dépassé. Elle a dépassé, mais comme on les conserve quand même relativement bien dans un lieu assez tranquille, on n'a jamais trop de surprises. C'est une cave.
La cave d'à côté. C'est-à-dire, il y a la cave où on enregistre, la cave d'à côté.
Oui,
c'est comme les filles d'à côté, sauf qu'il y a des bières.
Je dis, les filles d'à côté avec la cave d'à côté, ça ferait très peur. Ce serait pas une version que j'aurais envie de voir.
Version autrichienne.
La version autrichienne, il a dit. Hein. Pas version autrichienne, j'y vais. Oh. J'ai eu un... Quoi ? Non. Coupons pas ça. Écoutez, moi, je l'aime bien. Je l'ai de temps en temps, la pression, à Beer Academy. De temps en temps, je la prends. Ça fait bien le taf.
Franchement, ouais. Elle passe bien, ouais.
Ah oui,
ouais, pas mal.
On est
pas mal.
C'est aromatisé.
C'est bien fait. Non, mais il revisite bien les recettes déjà classiques de base. C'est une brasserie que moi j'aime beaucoup. Et puis, c'est des gens, honnêtement, beaucoup de brasseries, heureusement, que je connais, sont des gens adorables, mais ils sont vraiment, vraiment très, très, très sympas. Et très chaud pour faire un jour une petite émission avec nous. Donc, ce sera l'occasion de vous les présenter également.
Avec plaisir.
Donc voilà, les amis. Et donc, ouais, comme je vous le disais, donc, histoire de faire une transition, j'ai écrit il y a quelques mois un article sur le fait de travailler dans l'alcool. Puisque moi, je suis à la base, comme mes camarades et comme beaucoup de monde,
alcoolique.
amateur de bière. Non, on ne dit pas alcoolique. On dit épicurien, alors que, bah non.
Et
non,
épicurieux, c'est quoi?
Je ne sais pas. Épicurieux ou épicurieuse, c'est pas la même. Donc, j'avais écrit un article récemment où j'évoquais justement. Le fait de travailler dans l'alcool, parce que...
c'est le micro qui a vu les plus droits.
C'est le micro, et il fait ce que je veux. Donc du coup, j'ai repris donc le Beer Academy en décembre 2021. Et donc moi, avant, je bossais dans tout ce qui était transport, logistique, donc rien à voir. Même si j'officiais déjà dans le milieu de la bière en tant qu'amateur, en tant que blogueur. Et donc on me dit, Greg, reprends, est-ce que tu veux reprendre la direction du bar avec Antoine ? Et donc, c'est là que j'ai commencé à effectivement découvrir un petit peu les coulisses du milieu de la restauration, notamment la restauration bar, type bar en fait. Et puis c'est là aussi que j'ai vu aussi, bah, malheureusement, les travers de ce type de milieu. Alors certes, il y a les consommateurs.
La tentation est grande.
La tentation est grande. Déjà, nous, bah, on est amateurs de bière. On a connu, comme plein de gens dans nos vies, des hauts et des bas. Il y a eu des hauts où tu fais la fête et des bas où tu fais moins la fête. Ou tu fais la fête aussi, ça dépend, mais à excès. Et voilà, on a eu tous eu de plus ou moins des périodes où bah, les soirées étaient peut-être un peu trop arrosées, notamment quand on était plus jeunes. Mais tu restes dans un cadre où c'est juste du loisir, même si il faut pas tomber dans l'addiction, c'est du loisir. Mais quand tu travailles dans l'alcool,
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Précisons-le, hein, c'est vrai. Mais quand tu travailles dans la bière, dans l'alcool, c'est là que ça devient ça très compliqué.
Si t'es coupé comme avec un citron, ça pique.
Bon, si on en croit donc l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'alcoolodépendance s'est avérée lorsque la consommation d'alcool devient une priorité chez une personne. Donc jusque-là, rien de nouveau au soleil, mais à quel moment considère-t-on donc qu'une personne bascule dans l'alcoolisme ? Alors, sur le site Santé publique France, on constate que les repères sont de 10 verres par semaine, soit 2 verres par jour maximum.
C'est léger.
Ce que je trouve...
C'est pas beaucoup.
Ah si, moi je trouve que c'est beaucoup quand même, 2 verres d'alcool par jour.
Alors, ça dépend. Surtout en France, c'est des demi, hein. C'est pas des pintes. Hein.
Ah oui, nous c'est des demi.
Oui.
Ça fait 5 pintes par semaine.
C'est pas fou.
C'est pas fou, mais ça fait... Enfin, du coup, moi, ma conso est moindre maintenant. Mais c'est vrai qu'à une époque, oui, j'étais dans ça, quoi.
Après, je pense que ah, ça dépend des générations. Parce que je pense que les nouvelles générations sont moins... Oui, un peu moins enclins à...
Ils boivent beaucoup moins.
Ils boivent beaucoup moins, ils fument moins. Enfin,
Il y a une baisse de ce genre d'excès. Donc... Mais et je précise, du coup, dans ces diverses semaines, il y a avec des jours de carence, hein, des jours où tu ne bois pas. Si tu veux vraiment pas basculer, il faut qu'il y ait des jours où tu ne bois pas. Donc, si tu passes au-dessus, du coup, de ces repères, tu es susceptible de basculer, effectivement, dans l'addiction et donc dans l'alcoolisme. Donc, et ça, c'est un sujet qui est un petit peu, c'est vrai, qui est tabou dans le milieu du vin, de la bière. Dans le milieu du vin, vous voyez, on entend rarement parler de ce milieu d'excès. C'est plutôt les bons vivants, les épicurieux, épicuriens, pardon.
Il m'a eu.
Non, c'est les épicuriens, c'est les bons vivants, les gueuletons, le fameux, comment il s'appelle, l'humoriste là, qui a arrêté justement du coup sa carrière parce qu'il avait eu une cirrhose. Le nom m'échappe.
Montagnier
Non. Je sais pas. Gérard Depardieu.
Non, je retrouvais, mais c'est un humoriste du coup qui était célèbre, tu sais, il débouchait des bouteilles, il criait en fait, et il faisait des spectacles, et en fait dans ces spectacles il était littéralement défoncé. Et ce mec là du coup fait campagne contre l'addiction des zombies, parce qu'en fait on a dit mais vous avez une cirrhose, faut que vous arrêtiez de boire, en fait vous pouvez plus boire des canons. Donc
Chicandier,
c'est ça, voilà. Donc on a eu ce genre de personnages là qui ont le petit côté bon vivant, gueuleton, vieille France, les traditions. Il n'y a pas le côté tabou de ça, en fait. Et dans la bière, au final, c'est à peu près pareil, puisque on entend rarement parler de ce genre de problème, en fait, dans notre milieu. On va par exemple, pour vous donner le contraste, par exemple, on va plus dire d'un alcoolo, c'est le SDF qui va boire sa 8-6 au chaud. C'est pas forcément le mec qui va sur un tap et qui a 150 badges par mois. C'est-à-dire qu'il a bu je ne sais combien de bières. Mmh. Ou le gars qui a dégusté 10 000 bières dans une carrière. Tu vois, et ces gens-là, on les voit, ils sont badass, ils sont cool. Mais quand tu regardes le rythme de consommation des deux, c'est le même, en fait, sans doute. Et donc, ils ont la même. Et t'as ce côté un petit peu tabou initialement dont on parlait très peu, en fait. Et petit à petit, quand l'univers du craft est arrivé, on a eu ce slogan qui s'est un peu imposé par lui-même, qui était « consommer moins, mais mieux », en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens consomment, en tout cas ceux qui commencent à apprécier la craft en général, ce sont des gens qui vont boire du coup quelques bières dans la semaine, des vins nature aussi et tout ça, mais du coup qui vont moins s'enquiller des trucs parce que effectivement les alcools industriels sont souvent des alcools plus faciles à boire et certaines bières artisanales vont être entre guillemets moins facile à boire, bien qu'on ait toujours le terme pintable dans notre milieu, hein, qui existe encore, ou les rapports qualité-cuite, comme on dit, par exemple avec des bières qui viennent de l'Est et qui sont en 50 centilitres et qui sont à des prix très abordables pour des qualités aussi bonnes que celles qu'on a en France, quoi. Et moi, en fait, c'est, quand j'avais écrit cet article, c'est que ça m'avait interpellé. Enfin, je vous donne un exemple, c'est que dans le milieu de la bière, c'est aujourd'hui majoritairement des autodidactes. La Plaine, par exemple, à Marseille, c'est un pharmacien, un marin. Sylvain, du coup, de la malfaiteur, vient du milieu du vin. On a des gars, ce sont des ingénieurs, beaucoup d'informaticiens, comme chez Zoumaï. On a très peu de brasseurs ou de brasseuses qui viennent d'un diplôme obtenu dans des trucs genre l'IFBM ou des lycées agricoles. Et donc, c'est des gens qui tombent en fait dans ce milieu-là. Donc, il n'y a aucune prévention, il n'y a rien en fait qui a été fait par rapport à ça pour les prévenir de tout ceci. Moi, j'ai connu hein, des brasseurs, plus que des brasseuses, mais j'ai connu des brasseurs qui avaient des gros problèmes d'alcool dans la brasserie, par exemple, a dû fermer. J'ai connu aussi des cavistes qui ont dû revendre leur affaire parce qu'ils ne tenaient pas le coup, parce qu'ils avaient des problèmes d'addiction à l'alcool. Et puis, l'alcool, tu peux aussi basculer sur la drogue aussi parce que ça va aller vite. Et donc, c'est un milieu qui est très, très, très compliqué. Quand vous êtes moi je prends l'exemple de Bière Academy. Donc moi, la première année où j'ai récupéré, j'étais assez souvent derrière le bar pour faire un peu de service et tout ça, quasiment tous les jours je me retrouvais là-bas. Et aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils viennent au bar et tout, me disent « Ah, Greg, on passe au bar, mais on te voit rarement. » Pourquoi ? Parce que la règle d'or, c'est ne jamais être son propre client, par exemple. Tu es patron du bar, tu ressors titubant bourré, tes employés te voient défoncer, tu peux faire des conneries. Tu es censé chapeauter les gens autour de toi et donc les manager, donc ne jamais se murger. Mon équipe manager dit « On t'a jamais vu, Greg, en étant bourré. On t'a toujours vu tranquille, quoi. » Mais parce que c'est une règle que je me suis imposée, que de nombreux confrères et consoeurs se sont imposés également. Et il faut faire hyper attention à ça, parce que tu as le piège, quand tu es derrière un bar, où tu as le pote qui vient et qui va dire « Ah, attends, je bois un verre, je t'offre un verre. Ah, mais tiens, prends un shot. » Et en fait, c'est comme ça que toi, derrière, tu prends le truc, tu bascules, et puis en fait, tu as une addiction. Et puis tu vas t'enquiller peut-être 3-4 verres dans la journée, et puis tu vas pas broncher. Donc les gens vont te voir normal, hein, ils vont pas penser une seule seconde que tu as dû t'enquiller peut-être 3-4 pastilles si tu es dans un PMU ou je ne sais quoi. Et donc c'est assez, assez compliqué. Et c'est vrai que là où moi j'ai eu le déclic qui m'avait poussé justement à écrire sur ça, c'est qu'on a des formations aujourd'hui en zytologie. Donc la zytologie, je le rappelle, c'est l'équivalence de l'œnologie dans le vin, mais pour la bière. Donc ce sont des gens qui vont prendre des bières, qui vont être capables d'analyser une bière de manière sensorielle, gustative.
Au même titre qu'un œnologue avec le vin. Hein.
Voilà, au même titre qu'un œnologue, qui vont aussi avoir la capacité de, à travers les faux goûts d'une bière, donc les défauts d'une bière, de pouvoir éventuellement vous conseiller. Donc ils vont faire du consulting pour vous dire si vous avez un problème lié à votre encannement, votre embouteillement, votre fermentation, etc. Ou simplement vous aider à élaborer par exemple une carte d'accord mets et bières. Donc ces formations-là sont ouvertes à tous à partir de 18 ans. Et là, ce que j'ai constaté, c'est que nous, à Marseille, Toulouse, il y a Toulouse, Marseille, Paris et Lyon de mémoire, il y a ce qu'on appelle l'IFCO, qui est une formation de l'Institut du vin et le truc de la vigne, j'ai plus le terme exact, mais ils ont ouvert une section bière. Donc il y a un franc succès depuis quelques années maintenant. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais eu à un moment donné deux alternants et qu'il y avait des gros soucis de consommation, et ils étaient très jeunes, en fait. Et donc, ces personnes-là, je suis toujours en très bon terme avec eux, et ça va beaucoup mieux d'ailleurs maintenant, mais ils ont eu un passage où même moi, j'en ai discuté après coup avec eux, et ils me disaient, mais tu as 18 ans, tu viens, tu sors, en gros, tu quittes le domicile familial, et dès 10h du matin, tu vas commencer à avoir un cours de zytologie, tu vas commencer à déguster des bières. Et tout coup, quand tu révises dans ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu bois des coups, puisque tu révises. Quand tu dois réviser des faux goûts, des styles, tu vas goûter. Et au bout d'un moment, j'ai eu affaire à beaucoup de ces personnes-là, de cette formation, par exemple, qui étaient des fois dans des états déplorables au bar, en fait. Si bien qu'il a fallu, à un moment donné, faire prévenir, en fait, ceux qui étaient au-dessus d'eux, quoi, leur dire, mais les gars, faites attention, parce que ça devient chaud, quoi. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'il n'y avait pas, par exemple, de sensibilisation en disant voilà attention parce que si vous avez tel âge là, vous devez faire très attention à votre consommation. Et c'est vrai que t'as pas une maturité de base pour pas boire, hein, tu peux avoir 30 balais et picoler comme un trou, mais il y a pas de sensibilisation qui a été faite. Et c'est vrai que c'est un sujet qui aujourd'hui commence un petit peu à changer, reste un peu moins tabou si tu veux. Mais aujourd'hui, voilà, ça a un peu bougé sur ça. Les mentalités ont bougé. Eric, toi, tu l'évoquais du coup tout à l'heure. Tu me parlais du coup de la bière sans alcool. Mm-hmm. On a aujourd'hui des cavistes sans alcool. On a beaucoup de produits sans alcool. Moi-même, au bar, au début, j'avais une ou deux refs sans alcool et du soft. C'était pas très demandé. En une année, j'ai eu énormément de demandes sans alcool. Aujourd'hui, selon la commande que je fais à un distributeur, je peux avoir une douzaine, une quinzaine de refs sans alcool que je stocke et que je fais tourner et les stocks partent très très vite en fait. Parce qu'aujourd'hui, les industriels s'y sont mis, on a les Heineken 00, etc. Donc ils se sont mis à faire quand même des produits qui goûtent quand même plutôt la bière à des taux inférieurs à 0,01, un truc comme ça. Bah, oui, ils ont une machinerie très complexe. Et nous en France, la bière sans alcool, c'est moins d'1,2%. Et donc on a beaucoup de brasseries qui se sont mises à faire du sans alcool. Et il y a beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, il n'y a plus de... Comment dire on ne voit plus le mec qui ne boit pas ou qui prend une tourtelle ou un sans alcool comme le loser, en fait. On le voit comme quelqu'un de totalement normal qui boit un coup avec toi. À une époque, c'est fait « Ah, bouh, tu ne bois pas d'alcool ah, !» Tu vois. C'est cette mentalité, moi, je le vois changer. Je la vois changer, en fait, vis-à-vis de la clientèle. Et comme tu le disais, Eric, on a une clientèle, du coup, plus jeune qui, aujourd'hui, malgré tout, beaucoup plus sensibilisée à ça. Et qui fait vachement attention à ça. Moi, je vois, hein, j'ai des clients qui sont très raisonnables dans leur consommation, qui vont prendre un ou deux verres, pas plus, et qui vont partir ensuite, qui vont revenir quelques jours plus tard se boire un petit verre. Mais j'ai eu une seule fois en 3 ans et demi d'existence du bar, une personne très éméchée chez nous qu'il a fallu sortir. On n'a jamais eu des gens vraiment éclatés, quoi. Ouais. C'est plus quand tu avais un after et que là ça s'arrosait avec des brasseries qui étaient sur place, tu faisais un peu la fête. Mais en tant que clientèle sur les heures d'ouverture du bar, on a eu une seule fois une personne qui s'était enquillée.
Vous fermez tôt aussi.
Nous on ferme à minuit parce que justement on veut éviter d'avoir ce genre de choses.
Les zombies de 2h du mat.
Ah oui, oui on les évite. Oui.
Non rien.
Tu levais la main pourquoi Eric? Bref, voilà, du coup, c'est vrai que bon, l'article que j'ai fait que je vous mettrai en lien quand j'aurai mis à jour le site, est assez long et assez complexe sur ça. Mais voilà, là, pourquoi aussi je parlais de cette addiction, parce que bah, l'alcool ça entraîne des débordements. Ça entraîne des débordements par exemple pendant des soirées, des festivals de tap takeover avec des gens qui vont faire des agressions. Physique, morale, sexuelle. Certaines brasseries qui ont été dans la sauce récemment, c'était principalement parce que les auteurs des faits étaient alcoolisés, par exemple, donc des gens qui ne maîtrisent pas leur consommation.
Fait aggravant du point de vue de la justice, d'ailleurs.
Et oui, fait aggravant parce que l'alcool désinhibe, donc déjà, ça veut dire que de base, il y a peut-être des trucs que tu dois régler toi-même dans ta tête, mais l'alcool te désinhibe complètement, et c'est là que tu commences à faire un peu de la merde. Donc voilà, et comme je disais, voilà, est-ce qu'il ne faut pas former, peut-être sensibiliser des gens en fait, très tôt à ce genre de choses quand ils travaillent dans le milieu de la bière? Est-ce qu'il ne faut pas former aussi, peut-être, débuter les formations à partir d'un certain âge, au cas où, tu vois, par exemple? Mais je ne sais pas, hein, c'est des idées que j'ai posées en fait, tu vois, dans mon article, tu vois, notamment parce qu'il y avait en cherchant quelle solution tu peux trouver par hasard. Par rapport à ça, j'ai fait un raccourci. Par à ça, genre Thalassa, tu vois. Sylvain Auger, si tu nous écoutes.
Sylvain Auger est mort.
Et oui, Sylvain Auger est mort au moment où on se parle. Donc, voilà. Donc
c'est peut-être d'ailleurs le seul moyen qu'il a de nous écouter, du coup.
C'est sans doute ça. Donc voilà, c'est pour ça que, du coup, je profitais qu'on avait fait ce petit passage Breaking Bad pour parler de ce côté addictif. Donc voilà, il y a une sensibilisation qui commence un petit peu à se faire. On a des brasseries qui ne sont que spécialisées pour le sans-alcool. On a les industriels qui ont fait une gamme sans-alcool de plus en plus étoffée. Les brasseries artisanales commencent toutes à faire une version sans-alcool au moins d'une bière. Il y en a de plus en plus.
Alors qu'a priori, les recettes sans-alcool sont plus compliquées à obtenir aussi.
C'est très complexe, ouais. C'est très complexe parce qu'aujourd'hui, les bières sans-alcool, je crois qu'on en avait abordé dans un sujet brassicole précédent, c'est très compliqué de faire une bonne bière sans-alcool. Et donc, du coup, c'est flotteux, c'est aqueux. Et on essaye de décliner des fois des styles en sans-alcool. Une bière stout sans-alcool, ça commence torréfié, d'un coup, tu n'as plus rien. Parce que tout le corps, en fait, a été distillé, a été altéré par le process. Donc du coup, en général, on va être sur de la bière blonde.
Moi, ce que en sans alcool
classique,
ce que je me rends compte, c'est mes préférés.
Ouais.
C'est souvent soit des IPA, soit des sour, on va dire.
Et c'est souvent les sour qui...
Parce que les sour ou les passeries sour en sans alcool, ça fait un peu jus de fruits avec un petit twist.
Ouais, c'est ça.
Et une IPA, c'est un peu pareil, mais version agrume, quoi.
Oui, c'est ça. Avec tu vois. L'amertume. En fait, les brasseries commencent à, quand elles font de la sans alcool qui dénote bien, qui marche bien. Moi, je l'ai vu par exemple au bar avec Two Wall, par exemple. Ouais. C'est le côté un petit peu, comme tu dis, le fruit en fait qui ressort. De la gauze, de la sour, c'est ces styles-là sur lesquels tu peux facilement ajouter du fruit et faire des arômes assez sympas, des mélanges de genres. Ça fait que les gens l'apprécient. Mais c'est vrai que ça a un côté un petit peu soda, parce que si tu fais un truc très classique. À moins d'avoir un matos exceptionnel comme vont avoir certains industriels, bah, tu n'arrives pas à reproduire en fait, le goût initial de la bière. Ouais. C'est très compliqué.
Imaginez les tourtelles. Quoi.
Et oui, et bah, les tourtelles qui sont hyper fruitées maintenant et tout, et que ça marche. Je crois qu'ils étaient même, ils s'étaient même fait tourtelle repiquer twist, par la loi E20. Et tourtelles twist, ouais, ils s'étaient fait repiquer par la loi E20 parce qu'ils faisaient tellement de promos en fait, sur ça que, à un moment donné, même la loi E20 dit non, mais même si c'est de la bière sans alcool, ça reste le mot bière, il faut faire attention.
Puis il y a quand même un peu d'alcool dedans quand même.
Il y a quand même un peu d'alcool. J'ai parfois des clientes de femmes enceintes, par exemple, qui ne prennent pas des bières sans alcool malgré tout, parce que même si c'est marqué sans alcool, c'est 1% d'alcool et elles ont peur de prendre le risque. Donc elles vont passer plutôt sur du soda ou du jus de fruits. Par exemple, toujours dans le sans alcool.
Parce qu'une bière sans alcool, c'est une bière qui titre à moins de 1,2%.
Exactement.
Hein, pour ceux qui ne savent pas.
Le 0,0.
Et c'est un taux valable pour toute l'Europe.
Toute l'Europe, ouais. Hein,
c'est l'Union Européenne qui a fixé ce taux-là, 1,2.
C'est ça. Et c'est un taux qui va varier après selon d'autres zones dans le monde. Il y a par exemple un truc fait amusant. C'est que les musulmans n'ont pas le droit de boire d'alcool, ça c'est connu. Mais si c'est un truc sans alcool, ils ont le droit. Donc est-ce qu'une bière peut être halal ? Alors oui, mais ça dépend des pays. Tu vas avoir par exemple, je te donne un exemple con, j'ai pas les chiffres en tête, mais l'Arabie Saoudite va te dire que si c'est à moins d'1%, c'est halal. Par contre, tu vas avoir le Maroc qui va te dire si c'est à moins de 0,5, là c'est halal. Tu vois ? Donc du coup, bah, selon toi qui veux exporter ta bière dans des pays où tu te dis tiens, je peux avoir un petit marché potentiel, eh ben, si tu as fait une bière à 1%, tu pourras pas la faire dans certains pays. En fait.
Alors que le vin sans alcool n'a pas ce problème.
Oui.
Vous savez combien de titres le vin sans alcool ?
Non, vas-y, dis-moi.
7%.
Sérieux, c'est
7%,
c'est beau.
C'est mais plus qu'une bière alcoolisée chez nous.
Le vin dit
sans alcool.
Le vin, c'est une autre histoire. Ça, je pense, j'en parlerai dans un futur épisode. Parce que le conflit vin-bière, il existe quand même beaucoup. Parce que les droits d'assises pour le vin sont inférieurs aux droits d'assises pour la bière. Alors qu'on fabrique des produits qui sont inférieurs en alcool, tu vois. Les vignerons ont beaucoup d'aide, les brasseurs n'en ont quasiment aucune. C'est d'ailleurs pour ça que récemment le SNBI et Brasseurs de France, les deux principaux syndicats en France pour tout ce qui est brasserie, avaient commencé à interpeller le gouvernement en disant bon, vous êtes bien mignons, mais maintenant on commence à être beaucoup, on est 2007, 2900, je crois même maintenant. Bon, il serait peut-être temps qu'on nous aide un petit peu parce que ils sont mignons les vignerons, mais avec leur vin sans alcool, comme tu dis, à 7%. Nous, on est obligé de faire un moins d'1,2, donc on alterne notre goût. Mais un vin, moins de 7%.
Et ça, c'est en France, parce qu'aux États-Unis, c'est 0,5
ouais.
Le taux. Et pour info, ça c'est une anecdote qui n'a rien à voir, enfin qui a un peu à voir.
Ouais.
La fameuse Heineken 0%.
Ouais.
Bah, le titre à 0,03%.
Oui, c'est ce que j'ai eu 0,01, mais c'est 0,03. Il n'y a jamais 0,0 parfait. Quoi. Après, 0,03, c'est rien du tout.
Oui.
C'est absolument rien du tout. Mais toujours pour dire qu'il y a. Alors, du coup, il y a des brasseries qui ont essayé de surfer sur le côté sans alcool pour essayer d'endiguer un peu le côté addictif et tout ça aux gens. Ils ont aussi créé des sodas. Donc, il y a de plus en plus de brasseries. Il crée des sodas. Pourquoi ? Parce que déjà, ça génère du chiffre d'affaires plus rapidement. C'est plus facile à faire, c'est moins long à fabriquer. Le roulement est plus facile à faire aussi. Elles font des sodas. Alors, pas tous sont bons. Mais par contre, du coup, elles font
Je crois que j'ai dit une connerie sur les 7%. Enfin, je pense que c'est l'article qui était faux.
Sean ?
Ah si, non, c'est ça. Dans l'Union européenne, sa désignation officielle provient de la législation qui limite l'appellation de vin aux boissons contenant au moins 7% de volume d'alcool.
Ça reste quand même.
Les vins sans alcool contiennent 0,3% par volume et sont trois fois moins calorique que le vin alcoolisé. Donc ah oui. Il y a une nuance entre la législation et la réalité.
Ouais. Mais bon, allez, tu vois, c'est. Alors, toujours pour le dire, voilà, pour finir sur ce sujet brassicole, c'est. Ouais, est-ce qu'il y a des solutions concrètes ? Ben voilà, il y a beaucoup de brasseries qui font du sans alcool. Il y a la sensibilisation qui est plus présente aussi. Les bars, les caves, on a aussi la loi F1 qui nous oblige à avoir des alcotests et tout ça. Maintenant, voilà, il faut toujours faire très attention quand on est dans le milieu de l'alcool. C'est qu'effectivement, la tentation est grande parce que ben, toute la journée devant toi, t'as des robinets. Et t'es jamais à l'abri de prendre la petite bière pour partir.
Imagine la vie d'un plombier.
Un cuisiniste tous les jours, tu vas te faire à manger, tu vois, c'est incroyable. Donc voilà les amis, c'était donc j'avais fait un article très complet sur le sujet il y a quelques temps. Il y a aussi un article très sympa sur le site, si vous êtes anglophone, qui s'appelle Good Beer Hunting, qui avait été très bien fait. Je crois que c'est ma collègue Anaïs Lecoq qui l'avait fait. Et voilà, vous le trouvez, je vous mettrai en lien quelque part sur des stories ou autre, en attendant de mettre à jour le site, parce que je suis à la bourre sur la mise à jour du site.
C'est notre nouveau running gag.
C'est le running gag, mais il sera à jour, je vous le promets. Mais écoutez, moi je vais finir ma petite double IPA. On va passer à la deuxième, qui est une... Merci mon Brice. Qui est une mangogose.
Mangogose. Dites-le vite.
La fameuse Let's Cook, donc avec notre fameux ours, qui a plus la gueule de Jesse que Walter, j'ai l'impression.
Il a une belle coupe de cheveux, j'aime bien.
Ouais, sa petite coupe de cheveux est plutôt cool. Et donc, je vous propose de faire un petit quiz. Un quiz sur les films qui parlent de drogue.
Oh yeah!
Une quinzaine de questions, ça va aller assez vite. Si vous voulez, commencer à vous servir la bière en attendant les copains.
On va faire nous la colle.
Moi, j'ai pas eu le temps de finir ma bière encore.
Parce qu'il parlait beaucoup.
Hein, ces gens qui parlent sans s'arrêter, c'est un scandale.
Ne fais pas un cul sec, il ne faut pas boire tant d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Mais j'en parle, j'ai pas dit que je le pratiquais. Bref, du coup, j'ai fait un petit quiz sur la drogue.
Ah, elle a une belle couleur, celle-là. Mangogose.
Ah, mais Dirmir fait des trucs très, très bons. D'ailleurs, la Free Panda, je ne sais pas si c'était pas une gozeuse, justement, qui avait été faite par Dirmir, qui était mais vraiment...
À l'abricot, très... enfin, un peu pêche ou abricot, je ne sais plus ce que c'était, non ?
Free Panda, bah, attends, j'avais carrément écrit dessus, donc du coup, je peux la retrouver.
Elle sent vachement bon.
Elle sent bon.
Mais... Elle sent très, très
c'était
bon.
C'était une sour, voilà, c'était une sour. Pastry sour, bah, tu vois, Eric, on y revient. C'était une sour, donc qu'est-ce que j'avais dit sur ça? Je cherche un peu les. Il y a du fruit, alors qu'est-ce que j'étais les fruits? Après, je. Mangue orange, oui, dans la Free Panda. Donc, effectivement, très 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 bonne, franchement, j'avais vraiment adoré. Alors c'était une collab avec Nepomucen. Notre brasserie polonaise, c'est Dirbir et Nepomucen. C'était une collab. Je viens de voir le logo sur l'étiquette. Allez, je vous propose de commencer donc notre petit quiz.
Allez, de la drogue. En quiz, évidemment.
Ça va être assez facile. Hein. Je commence par la première question.
La kétamine.
Un duo de dealers fumeurs de joint qui ont déjà travaillé avec le 13e apôtre et combattu Mark Hamill.
Ah, Jane Silent Bob.
Exactement. Et qui sont d'une vulgarité assez prononcée, sans compter le fait que l'un des deux ne parle jamais. Donc Jay et Silent Bob de Kevin Smith, dont on a fait un épisode sur Kevin Smith récemment aussi.
Également. Tout à fait.
Avec une bière de chez Zagovor, qui est maintenant qui s'appelle Protocol. Deuxième question. Johnny Depp et Benicio Del Toro complètement défoncés qui vont dans une ville bien
Las
connue.
Las Vegas Parano.
Ouais, Las Vegas Parano, tout à fait. Peut-être un petit peu plus dur, j'avais beaucoup aimé ce film. Tom Cruise qui transporte de la drogue pour le gouvernement, mais aussi des mecs comme Escobar.
Oui, je n'ai plus le titre. Merde. C'est le nom du personnage.
C'est le nom du personnage, ouais. Je veux dire. Le nom de... qui a existé, hein, c'est une histoire vraie. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout.
Ah, ça me parle mais je n'ai plus le nom.
Alors, je vous le dis, c'était Barry Seal.
Ah, Barry Seal.
Barry Seal. Ouais. Ça faisait plaisir de le voir dans autre chose que Mission Impossible. Vas-y,
boum, oui.
je saute des motos.
Ou que Jack Reacher, bim, bam, boum.
Ouais, bim, bam, boum. Faudrait que je voie la série Jack Reacher.
Ouais, moi aussi. J'ai bien aimé les
films. Le personnage est beaucoup plus réaliste par rapport au bouquin.
C'est vrai?
Ah, ben. Mais c'est vraiment une montagne. C'est
ouais,
pas Tom Cruise.
Il a l'air. Il a, mais il est dans le très très bon Fast and Furious 10. Il y a toujours dans ma task list de faire l'article pour Eric de Fast and Furious 10. Putain. Imagine, tu as un nom qui rappelle Al Capone, tu as un jeu qui te rend hommage et tu es devenu tellement le culte que tous les mecs dans la drogue veulent te ressembler, à tort. J'avais parlé tout à l'heure du coup.
Ah, Tony Montana.
Et ouais, Scarface, qui était du coup le surnom de Al Capone. C'était parce qu'il avait une grosse balafre en fait sur la joue qu'il avait eu, parce qu'en fait, quand il avait 18 ans, il avait essayé un peu de forcer la main à une nana dans un bar, dans le bar dans lequel il travaillait, à Chicago. Et il y avait son frère qui était pas content. Donc du coup, il allait l'aborder, sauf que l'autre, c'était une montagne. Il a commencé à exploser le gars. Et le mec, voyant qu'il se faisait exploser, il sort un couteau. Et là, il lui met deux coups de couteau, en fait. Donc il lui balafre la joue. Et plus tard, ce mec-là était un des sous-fifres d'Al Capone.
Ok.
Donc voilà, pour l'anecdote. Et le fameux jeu dont je disais est inspiré, c'est le fameux Vice City qu'on avait évoqué dans notre épisode sur Miami Vice. Imagine, tu es en forêt. Et là, t'as un nounours qui vient te démonter la gueule, alors que t'es pas DiCaprio. Cocaine bière. Alors, tellement con, je l'ai pas vu ce film encore. Imaginons que tu...
Basé sur une histoire vraie.
Oui, en plus, mais peut-être pas aussi...
Oui, c'est romancé, mais...
Bien romancé, mais oui, c'est une histoire vraie, effectivement. Imaginons que tu prends une drogue qui est tellement puissante que plus rien n'a de limite pour
Limitless.
Toi.
Limitless. Avec Bradley Cooper.
Et qui a eu une série dérivée.
Oui,
qui dans le même
aussi,
univers, je
crois. Très bien aussi. Et oui, dans le même univers, parce qu'à Paris, Bradley Cooper.
Imaginons que tu es une bande de potes déjantés sous drogue qui écoutent de la techno à fond les esgourdes. Et un des membres de la bande, bah, c'est Obi-Wan Kenobi.
Ah, Trainspotting.
Ouais, Trainspotting qui a eu la suite il y a quelques temps. Tu es un flic intègre, un petit peu grognon, un petit peu bougon. Et tu dois enquêter en fait sur le trafic de drogue dans deux villes différentes, dans deux films différents. La première fois, tu es à Chicago. La deuxième, tu es à Marseille.
French Connection.
Ouais.
Oh, French Connection. Yeah.
Qui était le nom de la bière qu'on avait fait, nous, avec Wiley, en Espagne, la Brut IPA. French Connection, dans lequel, on voit mon arrière-grand-père.
D'accord.
Parce qu'il était le chauffeur de Gene Hackman. Okay. Et le mec était apparemment... Il y a une scène où, je ne sais pas quoi, il arrive en taxi. Le mec était malade, le gars qui devait faire le taxi. Du coup, Gene Hackman avait dit bah, faites venir Alexandre, mon chauffeur. Et du coup, tu vois, mon arrière-grand-père, tu le vois pas, mais tu vois sa caisse. Quoi. Donc, c'était marrant. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait eu French Connection à l'époque. Tu vois. Tu fumes des spliffs, entre deux rides à moto avec ton meilleur pote et t'as Jack Nicholson qui vient dans un feu de camp aussi fumer des spliffs avec toi dans un film qui est très très barré, avec une fin what the fuck. C'est un film que je crois que j'ai vu avec toi, Eric, en plein air à Aix-en-Provence, avec notre ami Dillinger, justement.
Jack Nicholson ? Non.
Oui, il apparaît, Jack Nicholson, dans une scène.
Ah, justement. Easy Rider ?
Easy Rider. Tu l'as vu, toi, ce film ?
Ouh, alors il y a très longtemps. Et alors, Jack Nicholson avait été disparu de ma mémoire.
Dennis Hopper, mais.
Il y a Dennis Hopper, il y a Fonda.
Ouais.
Et Jack Nicholson, à peu près, il a un passage où Jack Nicholson, qui est en costume, cravate ou autre, qui genre bien sapé. Ils sont en feu de camp, ils commencent à fumer des spliffs entre eux et à être défoncés. Et c'était un film un petit peu spécial. On a, je crois, une possible émission sur ce thème-là, parce qu'il y a la brasserie, c'est pas la brasserie du Grand Paris, c'est l'autre brasserie parisienne, je sais plus, le nom m'échappe, qui avait fait la Easy Rider, Hopi Road, qui a fait la Easy Rider, du coup, qui est une de leurs gammes classiques que j'ai de temps en temps au bar. Tu es là tranquille, tu veux manger un petit kebab à Istanbul et d'un coup tu prends 30 ans ferme.
Ah, Midnight Express.
Joli, ouais, Midnight Express. Imagine une affaire criminelle de grande ampleur sous fond de trafic de drogue, mais en fait tout a été inventé, mais tu t'en rends compte au dernier moment quand le criminel a filé.
Je suspecte.
Exactement, suspecte.
Joli.
Enfin, le petit dernier, tu deviens le roi de la bourse américaine, si bien que tu te drogues plus que n'importe qui, tu lances des nains et tu dépenses des sommes folles avant de te retrouver ruiné.
Mais il n'y a pas de loup dans ce film.
Mais il n'y a pas de loup dans ce film, je suis très déçu. Voilà,
je suis déception.
Pour notre quiz, et je viens de m'exploser la rotule pendant que je vous parle.
Mal.
Il est temps de terminer par nos recos. Écoute, Eric, je vais te laisser commencer, comme ça je finis ma bière et je goûte cette bière.
Alors, je vais pas faire dans l'originalité. On avait parlé du premier opus dans un épisode précédent.
Ouais.
Je vais vous parler du deuxième opus. C'est le Dune 2 qui est sorti au cinéma très récemment. Ce film est à voir. Le premier était déjà magnifique. Et la mise en place était.
Dune 2.
Petite automobile. Bille. Alors, quand l'automobile, c'est le ver des sables. Hein, tu vois. Donc, honnêtement, à mon goût, meilleur que le premier. Plus action, on va dire. Mais plus de discours, on va dire, politiques, des valeurs sur le, l'endoctrinement, entre guillemets, sur le, la, convaincre les foules et tout ça. Et franchement, des scènes, des visuels géniaux, un casting qui est toujours... Cela, le casting s'enrichit avec Florence Pugh, Christopher Walken. Il m'en manque un. Il y en a une autre qui apparaît. Alors, très brièvement, c'est le jeu de la dame.
Léa Seydoux,
il y a Léa Seydoux aussi, mais
je pensais à Léa Seydoux.
C'est que je joue dans Furiosa.
Oui, tout à fait.
J'ai vu la bande-annonce de Furiosa aussi, c'est ma deuxième broco.
Alors, moi, j'ai vu la bande-annonce du prochain Beetlejuice et j'avoue que ça m'a hypé de ouf. Et je suis pas le seul parmi nos copains à avoir été hypé.
Oh, tu m'étonnes.
Donc ouais. Donc Dune 2 alors.
Dune 2. De 1 et de 2.
Ah oui, c'est vrai, il est moins contemplatif, je le vois.
Ah
dans
ouais,
moi,
il
je
est,
le vois
il est moins contemplatif. Hein, il est...
Ah oui, il est dans le cœur du sujet.
Ouais. Ouais, voilà.
Ça va, moi ça me plaît. J'avais bien aimé le 1, beaucoup. Je rappelle qu'on avait fait un de nos premiers épisodes, c'était sur Dune, mais la version, on n'avait pas beaucoup parlé, on avait beaucoup parlé de la version de Fincher.
Non,
Lynch.
Il y a Lynch dedans.
Il y a Lynch avec une bière, des bières de la brasserie Dune qui nous avait envoyé des bières très cool que j'ai pas encore eu l'occasion d'ailleurs de vendre chez moi, mais ce sera l'occasion peut-être dans l'année. Et voilà, c'était un de nos premiers épisodes. On était encore jeunes. On était encore jeunes et beaux, non. Et ouais, écoute, voilà. Et toi, mon Brice, est-ce que tu as une roco ce...
La même. Dune 2.
Tu as vu Dune 2 aussi?
Ouais, franchement, allez-y, c'est génial. Non, franchement, c'est vraiment kiffant, la mise en scène, la réalisation. J'ai adoré le passage sur Giddy Prime. Et en fait, c'est un espèce de faux noir et blanc. Il a utilisé des caméras filmées en infrarouge pour avoir ce rendu.
D'accord.
Et c'est vraiment trippant. Et bon, j'ai kiffé le côté fanatisme.
Oui.
Où en fait, tu as Javier Bardem qui passe son film à trouver des excuses à Paul Atreides à faire « Lisan Al-Gaib, c'était écrit. Oh, il a fait ça comme le Lisan Al-Gaib l'aurait fait. »
Il est allé pisser le matin, c'est ça.
Mais voilà, c'est tout à fait ça dans le film et je trouve ça génial en fait, ce fanatisme absolu
qui est très bien dépeint.
C'est très bien dépeint, ouais. C'est génial, franchement.
Bah écoute, je le vois théoriquement dans... Bah demain, on est dimanche, on enregistre dimanche, j'avais prévu de le voir demain. Mais de toute façon...
Moi, je préfère le voir avec les yeux. Ah bah oui. Et mes deux yeux, c'est demain, c'est pas...
Si, il y a un personnage dans le labyrinthe de Pan, je crois qu'il y a des... bah écoutez, moi j'ai une reco également ce mois-ci. C'est sur Netflix, pendant que je bosse ces derniers temps, j'ai dû un petit deuxième écran et des fois... Alors, pas quand j'écris parce que j'ai besoin de silence, mais quand je commence à faire des petits montages, des visuels, tout ça, je mets un petit peu des reportages et tout. Et dernièrement, donc, je suis tombé sur un reportage qui est en trois parties d'une heure, très bien fait, sur Schwarzenegger. Schwarzenegger qui est un personnage, un acteur que j'aime beaucoup, qui a eu ses travers, ses hauts, ses bas, mais c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. J'avais lu son livre que je recommande également, qui s'appelle Total Recall, son autobiographie. Qui est très très bien écrit, qui est plein d'anecdotes hyper intéressantes. Et le reportage sur Schwarzenegger, donc, qui est très bien filmé, tu le vois, il est tout seul dans sa grande maison. Il y a un peu d'humour, c'est assez marrant. Mais c'est aussi très touchant parce que tu vois un petit peu le passif qu'a eu ce personnage-là, cette personne-là. Et pardon. Et ce qui ressort, donc il y a trois parties. Il y a la première partie évoque tous les débuts. Donc en gros, c'est tout ce qui est la partie le bodybuilder, en gros. La deuxième partie, c'est l'acteur. Et la troisième partie, c'est le gouverneur. Ouais. Effectivement, donc cette division en trois parties est intéressante parce que Schwarzenegger, c'est quand même un mec qui vient d'une Autriche pauvre d'après-guerre avec un père qui le battait, qui est rentré dans l'armée. Et qui a fait retourner un tank en faisant une course de char, qu'il a racheté plus tard. Il est dans, je crois, c'est la ville de Graz, un truc comme ça, en Autriche d'ailleurs, d'où il vient. Il y a une statue de lui et tout. Il y est souvent. C'est un gars qui a jamais oublié ses racines, donc il vient souvent en Autriche.
Sans quoi faire non plus.
Sans quoi faire non plus. Et ce gars-là, en fait, est parti un jour à Londres. Il était fasciné par les bodybuilders. Il y avait un concours et il faisait beaucoup de gym et tout ça à l'armée. Et le mec est parti du jour au lendemain à Londres. Il est devenu Mister Univers. Et en fait, C'est une personne qui n'a pas eu besoin d'être acteur, en fait. Il était millionnaire en être acteur parce que une fois qu'il est arrivé sur place, il avait réussi en tant que bodybuilder. Il avait investi dans l'immobilier. Il avait investi dans des revues, des magazines de bodybuilding. Quand on l'a proposé de faire du cinéma, donc Hercule à New York, puis cet autre film là qui raconte l'histoire d'un bodybuilder, on croit que c'est un reportage, en fait non, c'est le nom échappe dans sa biographie. Après, il a fait Terminator et tous les trucs les plus connus. Et c'est hyper intéressant. Après, tu as la partie acteur qui est très fun parce que tu le vois, tu vois que le gars, en fait, il s'en fout. Il va faire des films. En fait, comme il avait déjà de base réussi sa carrière financièrement, tu vois qu'il continue à faire des trucs. Il va faire Jumeau, il va faire Junior, il va faire Last Action Hero. Voilà, il se prend pas trop au sérieux et tout ça. Tu vois la rivalité avec Stallone qui est très drôle aussi parce qu'ils sont devenus potes entre temps. Et après, t'as la partie gouverneur qui est hyper intéressante parce que tu vois que le gars, en fait, est loin d'être bête. Attends, Hercule à New York, Stay Hungry.
Stay Hungry.
Et Pumping Iron, pardon. Stay Hungry et Pumping Iron. C'est les deux films où vraiment on avait mis en avant son côté bodybuilding, tu vois. Et voilà, et la partie gouverneur est vraiment fascinante parce qu'en plus, il évoque, tu vois, sans tabou, bah, qu'il a eu un fils caché qui, au bout d'un moment, en fait, il était marié avec une Kennedy, Maria Shriver, de la famille Kennedy. Il a trompé, du coup, sa femme avec la femme de ménage. Alors, je ne spoil pas le truc, hein, parce que c'est connu. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, en grandissant, le fils ressemble énormément à Schwarzenegger. Et au bout d'un moment, il la puce à l'oreille et très vite arrive à tout le monde et il a avoué et donc il a divorcé. Et tu le vois, tu vois vraiment que ce gars-là a eu des coups durs, quoi, et c'est un vrai battant. Et donc ça m'a beaucoup plu parce que c'est un personnage que j'aime bien, c'est un acteur que j'aime bien, j'aime bien le personnage. Au-delà, tu vois, du côté bourrin, poète, ouais, la film d'action, tu vois.
Poète, forcément,
bon. Voilà, non, mais c'est un mec qui est hyper intelligent malgré tout, qui a pas mal de valeurs intéressantes, qui a un vécu pas mal. On apprend des trucs très tristes aussi sur sa vie et qui l'ont rendu encore plus fort. Donc, ce qui me tue pas me rend plus fort, comme on dit. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et puis voilà, le reportage est très bien fait, c'est le rythme à la Netflix. Un petit générique cool, voilà. Si vous avez envie de regarder un 3 heures de reportage comme ça, c'est assez cool à voir.
Ouais, ça a l'air.
Voilà, les amis. Voilà. Et un dernier reco très rapide, par contre, cette fois. Il y a eu le reportage sur Réel, je crois, dont j'avais parlé vite fait à un moment donné.
Il y en a un
sur un gars qui s'appelle Bagwan. Alors, je sais plus le titre. Mais vous chercherez Bagwan, vous le trouvez, c'est un truc de malade. Je sais même pas si c'est une secte ou vraiment un vrai courant religieux spirituel, mais un truc de malade, c'est des gens qui ont littéralement construit une ville aux États-Unis en suivant la doctrine d'un mec qui prenait en gros le côté un petit peu spirituel, la nature, la connexion. Et ces gens-là, en fait, ils ont juste pris une ville à eux tout seuls. Et c'est assez dingue, ils sont allés des procès, ils sont allés au niveau de l'État. C'est beaucoup moins malsain, je dirais, que Raël, qui lui est plutôt le côté gourou malsain. Là, on voit que c'est autre chose, mais c'est hyper intéressant. Si je retrouve le nom, je vous le donnerai dans un prochain épisode, sauf si je le trouve là pendant que je vous parle et que je meuble. Wild Wild Country, le nom du reportage. Voilà. Allez le voir, c'est hyper intéressant parce que c'est facile, en fait. Ils ont créé une ville... avec leur propre électricité, leur propre eau, tout. De A à Z, ils ont construit leur ville. C'est un truc de fou. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter. On va démarrer le générique. Vous pouvez nous retrouver donc, sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Eric, on te retrouve sur www.lesanarratifs.com. Sur Facebook, Twitter, Instagram.
Et parfois Blue Sky quand je me perds. Parfois Mastodon quand je me perds. Voilà.
Voilà, aussi Threads.
Threads, voilà, quand je me perds aussi.
Brice, on te retrouve. Brice, on te retrouve sur le pseudonyme de Grandtother sur les réseaux sociaux.
C'est moi.
Et moi, vous pouvez me retrouver sur www.thebeerlantern.com. Sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et comme toi, des fois, je me perds sur Threads ou d'autres. Et voilà, vous pouvez continuer à nous écouter. Nous envoyer aussi des dons sur Tipeee, ce qui nous permet de continuer à financer l'hébergement du podcast, etc. Voilà, merci à tous. On vous dit à très vite.
À bientôt.
Et puis on va enchaîner sur un autre épisode, nous. Hein.
Ouais, allez, 1, 2, 3, on s'en va plus.
Salut.
Ciao.
Négatif, je suis une mythe en pilote vert. merci, je te fais son cul.
Vers l'infini et au-delà.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.